Chapitre 1. Triste révélation. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que comme tous les autres enfants, j'avais une mère. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant que mes larmes s'arrêtaient de couler. Par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Jusqu'à 8 ans, je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison. Cependant, ma mère n'était pas veuve, mais son mari, qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d'autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris, et il n'était pas revenu au pays depuis que j'étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m'entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village. Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme que je ne connaissais pas s'arrêta devant notre barrière.
« J'apporte des nouvelles de Paris, » dit-il. « Votre homme a été blessé, voilà la vérité. Seulement, il n'est pas mort, mais il sera peut-être estropié. Pour le moment, il est à l'hôpital. »«
Oh mon Dieu !» s'écria Mère Barberin en joignant les mains. « Quel malheur !»«
Je lui ai donné le conseil de faire un procès à l'entrepreneur, » dit encore l'homme.
« Un procès, cela coûte cher. »«
Oui, mais quand on le gagne ?»
Les journées, les semaines s'écoulèrent et de temps en temps, il arrivait des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d'argent. Il fallait bien payer les avocats, disait Barberin, lequel était encore à l'hôpital un mois après son accident. Puis une dernière lettre, plus pressante que les autres, disait que s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces trois mots « vendre la vache ». Pour le paysan, la vache n'est pas simplement un animal. Si pauvre qu'il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, il est assuré de ne pas souffrir de la faim tant qu'il a une vache dans son étable. Chaque soir, la famille entière a du beurre dans sa soupe et du lait pour mouiller ses pommes de terre. Le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vide la vache. Et la roussette, c'était son nom, était encore plus précieuse. C'était aussi notre camarade, notre ami. Oui, car il ne faut pas s'imaginer que la vache est une bête stupide. C'est au contraire un animal plein d'intelligence et de qualité morale, d'autant plus développé qu'on les aura cultivés par l'éducation. Nous caressions la nôtre, nous lui parlions, nous comprenions ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ressentait. Un soir, à l'heure de notre pauvre dîner, la porte s'ouvrit brusquement.
« Qui est là ?»
demanda Mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré, et la flamme qu'il avait éclairée en plein m'avait montré qu'il était vêtu d'une blouse blanche et qu'il tenait à la main un gros bâton.
« Oh mon Dieu !» s'écria Mère Barberin. « C'est toi, Jérôme ?»
Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père !» Je m'étais approché pour l'embrasser à mon tour, mais du bout de son bâton, il m'arrêta.
« Qu'est-ce que c'est que celui-là ? »
« C'est Rémi. »«
Tu m'avais dit ?»«
Eh bien oui, mais ce n'était pas vrai parce que... »«
Ah, pas vrai, pas vrai !»
Il fit quelques pas vers moi, son bâton levé, et instinctivement je reculai. Il s'assit près de la cheminée et me regarda longtemps en silence. Son regard n'avait rien d'amical. J'étais terrorisé.
« Qu'est-ce que tu as pour souper ? » demanda-t-il enfin. « J'ai une solide faim. J'ai fait 20 kilomètres à pied rien qu'aujourd'hui. »«
La soupe est prête. Viens t'asseoir, » lui dit Mère Barberin.
Alors, quittant le coin de la cheminée, il vint s'asseoir à table et commença à manger, s'arrêtant seulement de temps en temps pour me regarder. J'étais si troublé, si inquiet, que je ne pouvais pas manger.
« Alors, tu n'as pas faim ? » me dit-il.
« Non. »
« Eh bien, va te coucher et tâche de dormir tout de suite, sinon je me fâche !»
Je quittai la table sans répondre, car les terribles mots « je me fâche » retentissaient encore à mon oreille.
« Il dort, » dit Mère Barberin. « Aussitôt couché, aussitôt endormi, c'est son habitude. Tu peux parler sans craindre qu'il t'entende. »
Sans doute, j'aurais dû dire que je ne dormais pas, mais je n'osais point. On m'avait commandé de dormir, je ne dormais pas, j'étais en faute.
« Ton procès, où en est-il ? » demanda Mère Barberin.
« Perdu. Les juges ont décidé que j'étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l'entrepreneur ne me devait rien. »
Là-dessus, il donna un coup de poing sur la table et se mit à jurer sans dire aucune parole sensée.
« Le procès perdu !» reprit-il bientôt. « Notre argent perdu ! Estropié ! La misère ! Voilà ! Et comme si ce n'était pas assez, en rentrant ici, je trouve un enfant !»«
M'expliqueras-tu pourquoi tu n'as pas fait comme je t'avais dit de faire ?»«
Parce que je n'ai pas pu. »«
Tu n'as pas pu le porter aux enfants trouvés ?»«
On n'abandonne pas comme ça un enfant qu'on a nourri et qu'on aime. »«
Ce n'était pas ton enfant !»«
Maintenant, c'est le mien. » « Et puis, si ses parents le réclament, qu'est-ce que tu diras ?»«
Ses parents ? Est-ce qu'il a des parents ? S'il en avait, il l'aurait cherché, et en 8 ans, il l'aurait trouvé. »« Ah, j'ai fait une fameuse sottise de croire qu'il avait des parents qu'il réclamerait un jour et nous paierait notre peine pour l'avoir élevé. Je n'ai été qu'un nigaud, qu'un imbécile. Parce qu'il était enveloppé dans de beaux langes avec des dentelles et un beau bonnet sur la tête, cela ne voulait pas dire que ses parents le chercheraient. Ils sont peut-être morts, d'ailleurs. »
C'est ainsi que j'appris, blotti au fond de mon lit, que Barberin n'était pas mon père et que Mère Barberin n'était pas ma mère. Mais alors, qui étaient mes parents ? Je m'endormis avec cette question au fond de la tête. Le lendemain, un peu avant midi, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayé à l'idée d'être conduit à l'orphelinat, je tournai les yeux vers Mère Barberin pour implorer son secours. Mais à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je n'avais rien à craindre. En arrivant au village, comme nous passions devant l'unique café, le patron appela Barberin. Mon père, qui n'était pas mon père, me poussa à l'intérieur et me dit d'aller m'asseoir dans un coin. Pendant qu'il parlait de moi avec cet homme et qu'il se plaignait de son malheur et de l'argent que je lui coûtais, je regardais autour de moi. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais un grand vieillard à barbe blanche et qui portait un costume bizarre m'intriguait. Le vieillard, sans en avoir l'air, écoutait aussi ce qui se disait. Tout à coup, il étendit la main droite vers moi et, s'adressant à Barberin,
« C'est cet enfant-là qui vous gêne ? »
dit-il avec un accent étranger.
« Lui-même. »« Il y aurait peut-être le moyen de vous en débarrasser tout de suite, »
dit le vieillard après un moment de réflexion,
« et même de gagner à cela quelque chose. Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paye une bouteille, et de bon cœur encore. »
Le vieillard, quittant sa chaise, vint s'asseoir vis-à-vis de Barberin.
« Ce que vous voulez, n'est-ce pas, dit-il, c'est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain. Ou bien, s'il continue à le manger, c'est qu'on vous paye. »« Juste, parce que... »
Et Barberin lui raconta ses malheurs et lui apprit que je n'étais pas son fils ni celui de sa femme et qu'il n'avait plus les moyens de me nourrir.
« Oh, les motifs, vous savez, ça ne me regarde pas. Je n'ai donc pas besoin de le connaître. Il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l'enfant. S'il en est ainsi, donnez-les-moi. » « Je m'en charge. Seulement, bien entendu, je ne vous l'achète pas. Je vous le loue. Je vous en donne 20 francs par an. »
Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir dans laquelle il prit 4 pièces d'argent qu'il étala sur la table en les faisant sonner.
« Et quel service voulez-vous qu'il vous rende ?»
Le vieillard regarda Barberin d'un air narquois et vidant son verre à petits coups.
« Je lui apprendrai à danser, à sauter, à jongler. » À faire de la musique avec cette harpe, à lire et à écrire aussi. Et quand il saura faire tout ça, il prendra place dans la troupe du signor Vitalis. Un saltimbanque, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas ? Et où est-elle votre troupe ?
Artiste, je vous prie. Le signor Vitalis, c'est moi, comme vous devez vous en douter. La troupe, je vais vous la montrer, puisque vous désirez faire sa connaissance.
Disant cela, il ouvrit sa veste qui était taillée dans une peau de mouton et prit dans sa main un petit singe qu'il tenait sous son bras gauche, serré contre sa poitrine.
« Je vous présente Jolicoeur, et voici ses collègues, Capi, Zerbino et Dolce. »
À l'appel de leur nom, 3 chiens sortirent de sous la table et, se dressant sur leurs pattes de derrière, saluèrent.
« Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires, car nous devons nous mettre en route, ma troupe et moi. Mais louez-vous cet enfant, oui ou non ?»
Barberin prit les 20 francs.
Prenez-le et revenez avec lui l'année prochaine pour mon loyer.
Vitalis se leva et s'approcha de moi.
Comment s'appelle-t-il ? Demanda-t-il encore à Barberin.
Rémi. Allons, Rémi. Prends ta harpe et passe devant Capi. En avant, marche.
Je tendis les mains vers Barberin pendant que Vitalis me passait la harpe en bandoulière. Mais celui que j'avais cru mon père détourna la tête tandis que Vitalis me prenait par le poignet. Je fus bien obligé de le suivre. Barberin nous accompagna jusqu'à la porte.
« Bon voyage »
cria-t-il encore. Et il rentra dans le café. Hélas, c'était fini. Je sentais que j'étais en train de perdre à jamais mon enfance, mes lieux familiers, mère Barberin.
« Allons, Rémi, marchons, mon garçon !» dit Vitalis,
et sa main tira mon bras.